Le premier partenaire sexuel de mon choix, j'avais 18 ans. Il était sculpteur, il m'avait suivi dans la rue et pris son courage à deux mains pour m'aborder alors que j'allais disparaître sous un Porsche. Mon corps lui inspirait des dessins de toute beauté. Je n'en ai gardé qu'un, celui qu'il m'a offert le jour où je l'ai quitté. On est parfois très bête à 18 ans. Le deuxième m'a forcé à une fellation dans sa Porsche garée avenue des Champs-Élysées. Je n'ai jamais voulu le revoir. Le troisième était mon premier coup d'un soir. Le quatrième avait une Harley Davidson et voulait absolument me sodomiser. Je détestais cette idée, mais je pensais que pour le garder, il fallait accepter. J'ai même espéré que j'allais peut-être aimer ça. J'ai appris ce jour-là qu'il faut toujours écouter son intuition et ne jamais se forcer. Le cinquième est devenu mon mari, peut-être parce que je me suis sentie suffisamment en sécurité avec lui pour parler de ce qui m'avait été fait, jeune fille, sur un canapé. Le sixième ne voulait jamais qu'on nous voit ensemble en public, mais passait toutes ses nuits dans mon lit. Un jour, j'ai décrété que je valais la peine d'être aussi fréquentée deux jours, mais pas lui. Le septième était fou de moi quand j'avais 15 ans. Le huitième était le plus âgé de mes amants, membre de la famille Grimaldi, celle du Rocher. Il n'est jamais parvenu à me faire aimer Monaco. Le neuvième était brune et douce. Son petit ami voulait me mettre dans son lit et qu'on le garde pour nous. C'est elle qui le fit et il n'en sut jamais rien.
France Inter. Julia Foyce, unique en son genre.
Be my sex and I. Dans cet épisode, Fatou nous parle de son prénom, éminemment respecté dans l'islam, tout comme l'est celui de Marie chez les chrétiens, de son père, qui a eu le sentiment d'avoir été sauvé par sa rencontre avec sa mère, et de l'image de femme qu'elle veille à donner à son fils de 16 ans. Nous avons aussi parlé d'épanouissement sexuel, de féminité, et de l'importance de ne pas stigmatiser les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Je vous laisse écouter Fatou, cette femme à la quarantaine resplendissante et au franc-parler assumé, que personnellement je côtoie depuis une décennie, et j'espère pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas encore, qu'elle sera une belle découverte. Bonjour Fatou.
Et bonjour Axel.
Et bonjour Julia.
Axel Djandjike, à l'origine de ce podcast Me, My Sex and I, dont on vient d'entendre un extrait d'épisode consacré à Fatou Ndiaye. Vous êtes aussi l'autrice de ce livre, Journal intime d'une féministe noire, qui vient de paraître aux éditions du Diable Vauvert. De l'un à l'autre du podcast au livre, un fil rouge, l'intime, le corps, le désir, le sexe, dans ce qu'il peut avoir de plus lumineux, mais aussi de plus violent. Mais pourquoi cet axe-là ?
Parce que c'est l'axe qui me parle le plus, c'est celui que je me sens capable d'incarner, c'est celui que j'incarne. Et il est plus facile pour moi d'aller chercher les autres sur ces thématiques-là, puisque je les connais moi-même.
Mmh. Journal intime d'une féministe, parce que l'intime, c'est définitivement politique, c'est un terrain de combat.
Mais l'intime, c'est le premier champ du politique. Comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? Et en plus, vous posez la question à une femme noire. Par excellence, nos existences sont politiques. Nous, la question de l'intime est politique. En fait, elle s'est même pas posée. On a décrété pour nous.
Pourquoi?
À travers l'histoire. À travers la façon dont on a été perçu par l'autre lorsqu'il est arrivé sur notre territoire, par la colonisation, la manière dont on a été fétichisé et objectivé et où on s'est demandé si nous avions une âme. Quand même, hein, faut le savoir, est-ce que les Noirs étaient dotés d'une âme? Bon, après, on se demandait aussi si les femmes avaient une âme, hein, une époque encore antérieure. Mais en fait, quand vous cumulez les deux, c'est quand même c'est un bon rappel historique.
Alors c'est intéressant parce que vous le dites dans le titre, journal intime d'une féministe noire, mais vous le mettez entre parenthèses.
Absolument.
Donc pourquoi le mettre entre parenthèses?
Parce que ça ne suffit pas à dire qui je suis, ça ne suffit pas à dire la fille de qui je suis, ça ne suffit pas à dire la mère de qui je suis devenue, ça ne suffit pas à dire l'amante, la maîtresse, la dame qui s'amuse à faire un état des lieux de ses relations sexuelles et affectives. Dès le premier chapitre.
Alors vous l'écrivez, vous insistez souvent là-dessus, vous dites « je suis qui j'ai choisi d'être oui. ». Alors ce journal intime, c'est celui d'une émancipation, c'est le récit d'une femme qui fut la première de la famille à savoir lire et écrire, la première dont la vie de femme mariée n'avait pas été une succession de viols déguisés en relations conjugales, la première à avoir pu choisir de mon plein gré ma grossesse et celui qui allait devenir le père de mon enfant, la première à avoir souhaité que mon premier-né soit une fille. Cette femme-là, quand vous la regardez dans ce miroir, Axel Djandjike, prenez-le. Cette femme-là, vous en diriez quoi?
Qu'est-ce que j'en dirais aujourd'hui?
J'irais bien jouer meuf. Franchement, bien jouer meuf.
Décrivez-vous, qu'est-ce que vous voudriez dire de vous à celles et ceux qui nous écoutent?
Alors, une fois n'est pas coutume, non je déconne, j'ai revêtu mon turban. Voilà, c'est un objet de reconnaissance en ce qui me concerne, que j'arbore depuis une vingtaine d'années à une époque où c'était pas du tout à la mode. Voilà, d'être coiffée de la sorte, et je me souviens que les premières réflexions auxquelles j'ai eu droit en la matière, c'est que ça faisait négliger.
Ah bon
de porter ça.
Ah oui, alors pourtant, que c'est quand même le truc. Il y a un drapé, rouille, et il y a quand même, on sent tout un art à croiser, à croiser le turban autour
d'accord.
de votre tête.
Oui. On est grave d'accord. Mais du coup, voilà, j'ai pendant longtemps été identifiée comme la meuf au turban.
Ah, et ben voilà. Donc la meuf au turban, vous êtes chez vous ce soir. Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous, Axel?
Mon décolleté.
Ah. Qui a, on va dire, un certain volume, un joyeux volume.
Voilà,
en fait,
ça.
J'ai très envie de dire
mais
un joyeux
c'est ça.
Volume.
Mais c'est ce truc-là où pendant super longtemps, enfin, moi, ça n'a jamais été une question. Et puis surtout, j'ai toujours utilisé comme un leurre. En fait,
c'est-à-dire,
ouais, ça me permettait de savoir à qui j'avais affaire.
Ah,
donc il y a trois
c'est
catégories.
C'est le fameux regardez-moi dans les yeux.
Ouais, c'est ça. Il y a trois catégories. Il y a ceux qui voient et qui ne voient que ça. Donc ceux-là, bon bah continuez votre chemin, hein, ça va pas le faire. Il y a ceux qui font semblant de ne pas voir. Et moi j'ai tendance à me méfier un tout petit peu de ces individus-là.
Okay.
Je trouve que c'est pas trop franc du collier. Et puis il y a ceux qui sont capables de voir et de relever la tête et de vous regarder dans les yeux, parfois avec un demi-sourire en mode « Ok, c'est bon, j'ai calculé, c'est bon, viens, maintenant on parle ». Moi, j'ai toujours trouvé très efficace pour savoir à qui j'avais affaire.
Le mauvais genre chez vous est une profession de foi. Mauvais genre de partir de chez soi à 17 ans, se marier à 19 et repartir à 22. Mauvais genre avorter 3 fois. Mauvais genre jouir beaucoup plus souvent que ça. Mauvais genre de compter ses amants et de se dire que finalement, on n'est pas si mal avec soi.
Pas si vite, tout va trop vite, bien trop vite, tout va si vite, pas si vite, tout va trop vite, ralentissons, pas si vite, allez, allez, allez,
allez, ça va.
Piano Bassano.
Tu sais, c'est vital, tout va bien trop vite. Petit pas.
Jojoa et lieutenant Nicholson sur France Inter avec ce titre pas si vite qui vous va comme un gant d'ailleurs ce morceau Axel Janjic. Il dit la fête jusqu'à plus soif, il dit la sieste jusqu'à très tard, il dit un corps qu'on a appris à écouter, à choyer, à caresser. Gourmande, surtout si c'est des langoustines, cinéphile, surtout si c'est du capra, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous voulez, jouisseuse, vous l'êtes et jusqu'au bout des doigts. C'est ça, être une féministe païenne?
Absolument. C'est être charnelle incarnée à vide. De soi, d'essence et embrasser au sens propre et figuré.
Tout ça, vous le racontez dans votre journal intime d'une féministe noire, Axel Janjic, qui est très très unique en votre genre. Vous êtes notre invité.
Unique en son genre.
Ce journal intime s'ouvre par les mots que j'ai lus en début d'émission. Vous remontez le fil de vos amants, vous les croquez, un détail ici, une nuance par là, vous les rangez par ordre chronologique et vous les numérotez. Pourquoi ?
Parce que je suis tombée un jour sur un sondage qui répertoriait, enfin qui annonçait, quand on interrogeait les femmes, elles avaient tendance à parler seulement des partenaires qui avaient compté au minimum sentimentalement dans leur vie, tandis que les hommes énonçaient tous leurs partenaires. Ouais. Et bien sûr, dans ces cas-là, le chiffre des femmes était moindre, tandis que celui des hommes...
Mais ça veut dire quoi ? Qu'on est dans une compète ?
Bah non, ça veut dire surtout que nous, on a tendance à penser que c'est la sentimentalité qui fait le partenaire et qu'on oublie les autres.
C'est-à-dire voilà. On s'autorise pas.
Non, on s'autorise pas. On a tellement peur de passer pour des grosses salopes que on oublie les gens quand même. Donc voilà. Et du coup, en fait, moi, en lisant ce truc-là, je me suis dit non. En fait, qu'est-ce qui se passe si je répertorie les deux et les affectifs et les sexuels et les coups d'un soir et tout ça. Et voilà, ça donne 69.
Alors, on croisera l'ombre d'un sculpteur. La silhouette d'un chirurgien esthétique, un membre de la famille Grimaldi, donc un soldat des forces spéciales, un père de famille et puis une brune ou deux. C'est ça, la liberté sexuelle, c'est pas de règles, pas d'idées arrêtées, c'est se laisser porter par la rencontre et par l'instant.
Par la personne, plus que le sexuel. Moi, je crois que c'est surtout des interactions avec des individus et des personnes qui parlent aussi de vous. Ben, ça revient toujours au même, qui êtes-vous ? Que dit de vous les choix que vous faites et je pense qu'il y a des choses qui se transparaissent quand même beaucoup dans cette liste.
Vous parlez de choix, j'ai pas compté pour le coup le nombre de fois où ce mot est utilisé dans le livre, mais beaucoup. Et votre parcours à vous, c'est celui, et sans doute de toutes les femmes, en tout cas de très 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 nombreuses femmes, qui va de la contrainte au choix. Il y a beaucoup dans ces récits, dans ces souvenirs, il y a, au début en tout cas, il y a des caresses dont on ne veut pas, il y a des gestes qui sont imposés, il y a des rapports forcés, ce sont des agressions. Est-ce qu'au moment où vous les vivez, vous en avez conscience ?
Non, parce qu'en fait je n'ai pas le vocabulaire pour les qualifier. C'est ce qui est terrible en fait quand vous êtes jeune, c'est que ces conversations-là vous les avez pas, donc vous savez pas tant qu'on vous a pas donné les mots. Bah ouais, vous avez tendance à croire que c'est la norme. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que votre corps, par contre, lui, vous dit qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Le malaise, il est là. Mais grandir dans un environnement où on ne nomme pas les choses, ça rend d'autant plus difficile l'identification. Ouais. Moi, c'est les mots, enfin pouvoir avoir pu mettre les mots dessus, qui ont changé la donne.
Alors en attendant, vous poursuivez, hein, le 21e était grec et beau comme un dieu, le 22e me fit l'amour comme un champion un soir de Coupe du Monde, le 23e n'a pas osé m'aborder, c'est moi qui l'ai fait après avoir bu 4 mojitos pour m'en donner le courage, le 24e croyait savoir mieux que moi ce qui me ferait jouir et il avait tort, le 25e me posait des questions et se rappelait des réponses, waouh, le 26e connaissait par cœur les paroles de Quand tu m'aimes, Herbert Léonard et il assumait.
Fébrilement je t'attends, je suis en manque de toi, je me languis de ton parfum. Sentir ta bouche effrontée, épouser tous mes rêves, dans un délicieux va-et-vient. Retenir nos élans.
Mes doigts impatients trouver ta voix sacrée. On est sur
non, mais les paroles quoi. Les paroles. Sérieusement, on se moque, mais quand même
pas
il
du
a
tout.
Osé quoi. Ouais.
C'est quand même l'essentiel,
c'est ça,
non,
qui vous séduit, c'est l'audace. Sacrée.
Mais oui, bien sûr. Et puis le fait que voilà, le partenaire en question était mais pétri de dérision. Et en fait, comme il ressemblait un tout petit peu à Herbert Léonard, et en fait, la conversation commence parce que je lui dis, tu me fais penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir à qui. Et lui, d'une, de deux, de trois, il sort du lit, il prend le micro, il allume la chaîne et fait, attends, je vais t'aider, tu vas voir qui c'est. Et effectivement, on s'est mis à chanter, j'ai fait, oh merde.
Alors, vous, de l'audace, vous n'en manquez pas. Par exemple, quand vous tombez amoureuse, vous pouvez pendant un mois envoyer tous les jours 12 roses rouges à quelqu'un qui n'est pas forcément
qui n'est pas libre, dans... qui n'est pas disponible, voilà. qui n'a jamais vu venir une chose pareille.
Et vous le faites sans peur.
Absolument.
Sans honte, sans...
Non, pourquoi?
Sans gêne. Enfin, pas de honte, mais je veux dire, sans se dire...
Prémédité, en fait. Je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, et en plus, je vais attendre un peu, il va se passer plusieurs mois, mais en l'occurrence, je vais avoir l'histoire que je dois avoir avec cet homme-là, ouais. J'avais vu juste.
Alors, il y a celui qui vous demande de vous épiler intégralement, vous dites « toi d'abord », il refuse, alors vous aussi. Celui dont le rire était colossal, et puis le rire s'est tu, putain de camion. Celui qui vous laisse pleurer dans ses bras le souvenir de celui dont le rire était colossal. Et puis celui qui, pour mettre toutes les chances de son côté, vous emmène dîner à l'Hôtel du Nord et vous offre le DVD des Enfants du Paradis.
D'abord, je vous dirai mon nom. Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre ?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vos lèvres. Alors ?
Alors, au revoir, Frédéric.
Oh non, vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Me laissez tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai.
Bientôt, peut-être. Sait-on jamais avec le hasard ?
Oh, Paris est grand, vous savez.
Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Immense classique de Marcel Carnet, réplique culte, et puis Pierre Brasseur, et puis Arletty. Qu'est-ce qui vous séduit, quoi que ça ne nous étonne
alors,
pas tant que ça,
c'est
une femme comme Arletty.
Déjà, Garance a failli être le prénom de ma fille.
C'est vrai.
Mais bon, Margot avait remporté les suffrages bien avant, et je m'étais toujours dit que si j'avais une deuxième fille, elle s'appellerait Garance. Ouais. Voilà, déjà. Et ensuite, Arletty est quand même un personnage en couleur. C'est quand même une bonne femme qui vous dit de bien aller vous faire foutre, que vous soyez d'accord ou pas avec ses choix. Mm-hmm. Hein, voilà.
Quels que soient d'ailleurs ses choix.
Quels que soient ses choix. Voilà, ça s'appelle un être complexe. Et qui
oui, on
est
fait allusion évidemment à sa grande histoire
d'amour
avec un nazi.
Avec un officier nazi.
Ouais.
Et c'est aussi, moi, cette gouaille-là, ce culot-là, cette façon d'incarner le féminin et voilà, d'être bien campé dans son être. Ben, ouais. Moi, j'adore ça, quoi.
Gouaille que vous avez aussi, parce que vous avez un langage truculent parfois, très cru, ici comme dans votre texte. C'est important de nommer les choses pour ce qu'elles sont.
Moi, ouais. Ça m'a sauvé la vie, hein, les mots. Hein. Donc, je pense que si j'en fais usage de cette façon-là et si je les aime tant, c'est aussi une forme de reconnaissance pour ce qu'ils m'ont apporté. Je suis infiniment reconnaissante d'être tombée dans les livres comme je suis tombée dans les livres. Parce qu'ils m'ont permis d'imaginer des ailleurs et puis de m'échapper de la violence de la maison dans laquelle j'ai grandi. Et permis aussi de m'imaginer un futur. C'est important, ça.
Et permis aussi, comme vous le dites dans votre livre, de choisir peu à peu et de mieux en mieux les amants avec lesquels vous partagez votre intimité jusqu'à vous choisir, vous. Mm-hmm. Pour la première fois de votre vie, vous avez 22 ans et vous vous donnez du plaisir physiquement une nuit dans un appartement de la rue Quincampoix. Pourquoi là ? Pourquoi cette nuit-là ? Qu'est-ce qui fait que vous vous autorisez ça ?
Parce que je viens de me séparer du père de ma fille, parce que c'est la première fois que l'endroit où j'habite, enfin sur la boîte aux lettres, il y a mon nom seul, c'est chez moi. J'ai jamais eu de chez moi. Et je crois que c'est la première fois que je m'autorise à me dire que je peux prendre la place, que je peux prendre l'espace, que je peux occuper l'espace. Donc occuper l'espace à ce moment-là, c'est prendre possession totalement de mon être et de ma chair et de mon plaisir, qui jusque-là fonctionne. Hein. C'est juste que ce geste-là, je ne l'ai jamais mené à terme. Je me suis toujours arrêtée en cours.
En revanche, avant cela, vous aviez largement nourri votre imaginaire, développé votre répertoire érotique en fantasme. et en secret à la lecture de La Bicyclette Bleue de Vénus Erotica ou d'Emmanuel et à l'énoncé de ce prénom mythique. Je suis sûre que ça y est. Des images, des sons, une certaine moiteur remonte pour celles et ceux qui nous écoutent.
Vous croyez tout connaître d'elle, et pourtant, vous ne la connaissez qu'à moitié.
Oui, alors, chaleur. Nonna Maria, sois gentille. Je veux que tu...
Je n'ai aucun droit sur Emmanuel. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre. Moi aussi.
Et je me permets de citer notre technicien Fabrice Desmas qui vient de nous dire ça a quand même mal vieilli, ça nous met un coup. Oui, Fabrice, ça nous met un coup. Emmanuel, Sylvia Christel, 1974, 9 millions de spectateurs, 45 millions dans le monde. C'est l'adaptation d'un roman d'Emmanuel Arsan qui raconte l'histoire, je précise pour celles et ceux qui auraient échappé, hein, l'histoire de cette femme de diplomate exilée à Bangkok, femme qui trompe l'ennui avec un majordome, un champion de boxe, un archéologue, une jeune fille prénommée Marie-Ange, et puis j'en passe. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous a fait à vous, Emmanuel?
Alors, il faut savoir qu'il y a deux Emmanuel. Il y a le film et l'adaptation, et il y a l'ouvrage d'Emmanuel Arsan. Et l'ouvrage d'Emmanuel Arsan, contrairement à ce que les gens pensent, est incroyablement bien écrit. Il est beaucoup plus subversif, en fait, que ce que vous voyez dans le film.
C'est-à-dire que le personnage a un peu plus de consistance.
Ah ouais, bah oui, vous êtes dans sa tête. Donc déjà, dans le film, c'est un peu compliqué. Mais c'est très joli, hein, ce que Joss Jackin a fait, la lumière, tout ça, c'est très joli. Mais vraiment, je recommande de lire le livre. Emmanuel, au même titre que le Vénus Erotica d'Anaïs Nin, m'a appris que les femmes avaient un imaginaire érotique et sexuel. Et en fait, que ça, c'était autorisé. Et que je pouvais, en tout cas, entretenir cet imaginaire-là. Moi, ça m'a autorisé à ça, ces lectures-là.
Sauf que jusqu'à vos 22 ans, tout n'était resté que dans
votre
tête.
Ouais.
Vous aviez du plaisir, mais par la pensée seulement, ce qui est déjà pas mal.
Hein. C'est bien.
Qu'est-ce que cette caresse à vous-même, cette nuit-là, change en vous, et peut-être même de façon définitive?
Ça change que je comprends que je suis la jouissance. Je ne la procure pas juste aux autres, je l'incarne. Elle est ce dont je suis faite, elle exude par tous les pores de ma peau. Je suis née pour ça, elle est l'expression, pour moi en tout cas, du divin. Voilà. Et venant de cultures dans lesquelles, mais de toutes les cultures d'ailleurs,
toutes
on
cultures,
diabolise le sexe des femmes depuis tellement longtemps. Et notre plaisir fait tellement peur que voilà, on se retrouve brimé et réprimé absolument partout. Je pense que c'est extrêmement important de rappeler que le divin nous habite et nous habite à travers la jouissance, que la jouissance est une expression du divin quand vous êtes une femme. Donc ça, je pense que déjà, c'est un bon blasphème pour plein de gens, mais je suis bien, bien contente de l'écrire.
Et puis, vous dites, c'est l'expérience quasi mystique de se choisir soi.
C'est à propos de ça.
C'est une chambre à soi au sens strict, quoi.
C'est une chambre à soi au sens strict, et c'est surtout cette idée que le sexe doit être une offrande, doit être un cadeau pour nous-mêmes avant d'être une offrande pour l'autre. Donc, c'est surtout ça.
C'est l'expression du bonheur de me sentir vivante, je vous cite, hein, de la joie intense d'être femme. Et si c'est ça, être une femme, c'est un immense oui. Cette nuit-là, et au cours de toutes celles qui vont suivre, je vais prendre rendez-vous avec moi, jouir, jouir et jouir encore jusqu'au jour, entretenir une vie secrète, une vie de femme adulte, séduisante, qui vit une aventure torride avec elle-même. Je vais me célébrer et me chanter moi-même, avec le sentiment que quelque chose s'est libéré en moi, libéré et épanoui. Entre caresses et autres stimulations inédites, il se produira chaque fois quelque chose de très petit, de très intime, de très grand à la fois, comme si on m'avait rendu à moi-même. Dieu est une femme qui jouit.
Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot.
Oh, how you doing, baby? Shoot. No, not you. You, shoot. The bow-legged one. Yeah, what's your name?
Shoot.
Damn, baby, that sounds sexy.
Here I go again, girls, man. What's my weakness?
Man.
Okay, then chillin', minding my business.
Word.
Your soul, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip forward, dip, made me wanna do tricks. Lick 'em like a lollipop should be licked.
for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot, shoot, shoot. Well, let me bring it back to the subject. Caps on the set, make you get hot, make you work up a sweat. When you sit to my loo, my darling, not falling in love, but I'm falling for you. When I get chopped, by the bottle, you were best under pressure.
Yo, Sandy, I wanna like taste you.
Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray, me, cutie, shoot, shooba doobie, like Scooby Dooby Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh, ooh, ooh. I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot. Look at him. He is the cutest brother in here. And he's coming this way. Ooh.
S and the P wanna get with me. Cool, uh-huh. But I'm wicked. J hit skins whenever quickly.
Right.
I hit the skins for the hell of it. Just for the yell I get. For the smell of it. You want my ball? Here's the hot rod.
Hot rod.
12 inches to a yard and have you sounding like a.
Salt and Pepper Shoot, c'est votre choix musical, Axel Jadike. Qu'est-ce qu'il raconte de vous?
Ben ça. Alors, oh là là, ça raconte le sujet désirant que je suis d'abord, voilà. Ça raconte beaucoup une époque où je me suis beaucoup amusée et sur des sons de cet ordre-là qui sont pour moi voilà de très bons souvenirs.
Vous nous avez raconté le désir, vous nous avez dit le plaisir. Vous êtes de celles qui ont conquis leur liberté et qui la goûtent et qui la goûtent encore. Parce qu'elle a sans doute plus de prix et de valeur que d'autres. Un jour, sur un canapé, un soir, dans votre chambre, avait décidé de vous en priver. Vous êtes sur France Inter, bienvenue si vous nous rejoignez.
France Inter, unique en son genre.
Ma petite Lily, juste pour te dire, ça va bien se passer. Je sais que c'est dur, je sais qu'elle te manque. Je sais que tu ne comprends pas ce que tu fais là. Pourquoi ce sont eux maintenant qui vont s'occuper de toi? Pourquoi tu n'entends plus sa voix, tu ne sens plus son odeur? Pourquoi les paysages qui te sont familiers ont soudain disparu? Je sais que tu as peur ce soir, toute seule du haut de tes 6 ans dans cette chambre, sur ce lit pliable, environnée par ces sons que tu ne reconnais pas, que tu ne connais pas, que tu essaies de pleurer en silence pour ne pas te faire gronder, mais que ça te fait si mal au milieu de la poitrine d'essayer d'ainsi retenir tes sanglots que tu ne sais plus comment te mettre dans le lit pour les étouffer. On dirait qu'ils font 2 fois ta taille. Je sais que tu voudrais qu'elle soit là. Qu'elle soit venue avec vous, tu te croyais grande, assez grande pour ne pas pleurer, être courageuse comme elle te l'a demandé avant de vous laisser prendre la route de l'aéroport, vous laisser partir. Mais tu as menti. Tu n'es qu'une petite qui ne comprend pas ce qu'elle fait là. Pourquoi, ce soir, elle doit dormir sans sa maman. Axel Jadike, vous avez fini par le comprendre. Qu'est-ce qui fait que votre mère, quand vous avez 6 ans, vous envoie en France avec vos 2 frères aînés?
Elle s'est vue privée d'un accès à l'éducation quand elle était petite fille. Elle est née en fait dans les années 40 dans un village de l'ouest du Cameroun et elle avait passé un deal avec son père qui était que elle irait à l'école et qu'elle se marierait après. Et son père n'a pas tenu sa parole et donc quand elle a 12 ans, elle apprend du jour au lendemain qu'elle va être envoyée à Douala dans le foyer de son nouvel époux. Et manu militari, quoi, en fait, elle a pas le choix. Et en fait, elle va devenir mère à 13 et puis à 16. Et elle va heureusement rencontrer mon père à la fin de la vingtaine. Mais avant ce moment-là, elle va avoir droit à la vie qu'ont eu avant elle sa propre mère et mes aïeuls. Et je pense qu'elle s'est jurée que ce sort-là ne serait pas le mien. Quand elle apprend qu'elle a une fille, et puis quand elle me voit grandir, elle décrète que l'endroit où je serais le plus en sécurité, c'est à 3000 km d'elle, c'est-à-dire en France, et que ainsi je pourrais être soustraite à un sort un peu semblable au sien.
Alors, vous ne possédez d'elle qu'une seule photo en noir et blanc. Elle a le regard tranquille, une coupe afro majestueuse, la carnation claire, des traits fins. Vous avez toujours entendu vanter la beauté de votre mère. Et petite, vous vous attendiez à ce qu'on vous dise « si, tu as quelque chose d'elle, si, tu lui ressembles ». En fait, non, cette phrase-là ne vient jamais. Alors, à qui ressemblez-vous ? Petite fille, vous cherchez, mais vous ne trouvez pas. Pas tout de suite, vous saurez plus tard. En attendant, vous lui en voudrez longtemps, parce que vous vous tromperez sur son compte. Et puis, vous la remercierez un jour parce que vous découvrirez, dites-vous, de jolies choses sur elle. Quoi ? Quel genre de femme était votre mère ?
Quel genre de femme aime son enfant au point de penser que le bien-être de son enfant doit passer avant le fait de le garder près d'elle ? Quel genre de femme ? Comment vous pouvez ne pas aimer cette femme-là ? C'est... Mais il faut mûrir pour le mesurer. Il faut... comprendre que la colère que vous éprouvez à son encontre est en fait un leurre et que c'est de la tristesse qui est en dessous. Et toute la tristesse voilà d'une gamine de 6 ans qui, cette nuit-là, je... Écrire ce passage, c'était compliqué, quoi.
Et vous écrivez aussi « Tu t'acclimateras à ce pays et même si tu n'aimeras jamais porter les collants, tu finiras par aimer l'automne à cause de la couleur ocre des feuilles qui te rappellera la terre de là-bas. » Ce soir, tu as le droit de pleurer, pleure de toutes tes forces, mais sache qu'elle t'aime, même si elle ne te le dira jamais vraiment, parce qu'elle n'a pas appris à dire ça. Sache que cette séparation n'est facile pour aucune de vous deux, mais qu'elle te croit capable, parce que tu es sa fille, de te forger une existence digne de ce nom. Alors oui, Axel, vous pleurez, mais oui aussi, vous vous acclimatez. En revenant de l'école, vous allumez la télé, L'île aux enfants, tous les soirs, à 18h. Sur TF1, il y a ce dessin animé, La Noiraude, qui ne vous fait pas beaucoup rigoler.
Allô ? C'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire.
Ne quittez pas, je vous le passe.
Allô ?
Bonjour, docteur. La Noiraude à l'appareil.
Bonjour, la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore ?
Docteur, je viens d'entendre quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine.
Allons donc.
Eh bien, voilà. Je passais avec le troupeau devant l'école de musique... La fenêtre était ouverte, les enfants chantaient, et puis j'ai entendu le professeur qui a dit très fort « Une blanche vaut deux noires ». Blanchette était à côté de moi, elle a entendu aussi. Elle m'a donné un coup de corne en me disant « Tu entends, moitié de vache blanche ?» Et tout de suite, c'était des rires de moquerie en me regardant. Blanchette répétait à tue-tête « Une blanche vaut deux noires !» C'est bien vrai qu'une vache blanche, ça vaut deux vaches noires.
Pas du tout, la Noiraude. Le professeur parlait de notes de musique. C'était une leçon de solfège.
Oui, enfin, dans la tête des petites filles, c'est deux noirs qui comptent pour une blanche. C'est pas que du solfège, hein, et encore moins pour vous. Une gamine aux longues couettes blondes, un jour, dans la cour de l'école, vous appelle la Noiraude et vous la frappez. De colère, de tristesse, de quoi ?
Des deux. Toujours. Sous la colère, il y a toujours une immense tristesse. Oui, parce qu'en fait, elle se moque de mes cheveux. À ce moment-là, en fait, j'arbore ce qu'on appelle des tresses au fil chez nous, et ça fait un peu comme des antennes, en fait, au-dessus de vos têtes. C'est pas super. Moi, j'ai jamais aimé cette coiffure, je la trouve hideuse. Ce qui est marrant, c'est que c'est revenu très hype dans le hip-hop et tout, machin. Toujours pareil. Et en l'occurrence, il y a une petite histoire derrière le fait que j'arbore cette coiffure, c'est que mes deux tuteurs, donc qui sont les fils que ma mère a eu quand elle avait 13 et 16 ans, sont incapables d'entretenir mes cheveux. Et en fait, moi, je suis arrivée du pays avec un afro, mais genre un afro, quoi. Un truc de ouf, quoi. Et d'ailleurs, la seule photo que j'ai de ma mère, elle arbore aussi cette masse de cheveux-là. Et en fait, c'est d'elle que je tiens ça. Et jusque-là, c'est quelque chose qui fait partie de mon identité. Et eux, comme ils n'arrivent pas à en prendre soin, ils décident tout bonnement de me raser la tête. Et c'est particulier d'être une petite fille avec le crâne rasé et d'aller à l'école, et d'être une petite fille noire avec le crâne rasé et d'aller à l'école. Et donc, pour faire repousser mes cheveux, cette coiffure au fil a été choisie parce qu'il paraît que ça fait pousser les cheveux plus vite. Et c'est la raison pour laquelle j'arbore ça dans la cour de l'école. Et donc, quand elle arrive en me disant la Noiraude, il y a un peu un truc un peu lourd derrière. Hein, donc.
Bien évidemment. Vous êtes élevé par vos frères, l'un des deux, le préféré de votre mère est beau comme Mohamed Ali, il lui ressemble, il est cultivé, il veut devenir journaliste, il porte des costards Malto et tout le monde le trouve très beau. Vous, vous guettez surtout le bruit de l'ascenseur le soir et puis le bruit de ses clés dans la serrure. Pourquoi ?
Parce qu'au son des clés, ça peut paraître fou. Au son des clés, juste au son, je sais s'il est de bonne humeur ou si je vais me prendre une raclée. Juste au son.
Du jour au lendemain, il se met à vous frapper sans que vous compreniez bien pourquoi.
Ça a un lien direct avec l'agression dont je suis
victime.
L'objet.
Est-ce que vous voulez que je la résume?
Oui.
Si on peut résumer,
si on peut
l'indicible
résumer.
Et l'irrésumable. Et hop là, comme ça j'écris un mot. Vous avez 11 ans. Votre frère rentre avec sa petite amie. Il y a chez vous le frère de cette petite amie. Ils vous trouvent l'un et l'autre à bonne distance sur le canapé. Vous, de la main gauche, vous serrez votre jupe contre vous. De la main droite, vous vous agrippez à la coudoir du canapé. Quelque chose s'est passé. Il vous demandera jamais quoi. Ce quelque chose, c'est que cet homme devant la télé allumée, pressant la main contre votre bouche, vous viole. Votre frère rentre. Il s'en va. Vous, vous partez dans votre chambre. Vous jetez la culotte par la fenêtre. Et puis, c'est tout. Jamais un mot ne sera prononcé sur ce qui vient de se passer. Jamais.
Et jamais personne ne me demandera si je vais bien.
Personne ne s'excusera jamais. Cette histoire n'aura pas existé.
N'a pas existé. Et coups, par contre, les coups surviennent très peu de temps après ça. Et j'ai de la conviction aujourd'hui que c'est la façon qu'il a trouvé, lui, de traduire peut-être le fait de s'être senti impuissant face à ce qui m'était arrivé, ou en tout cas qu'il estimait que quelque part c'était de ma faute parce que je ressemblais à ce à quoi je ressemblais. Il faut savoir que j'ai été formée, j'avais 10 ans, donc quand le viol survient, en fait, en plus, accessoirement, ça inquiétait personne de savoir quand même que j'étais réglée aussi. J'aurais pu me retrouver enceinte, mais personne n'a pensé à ça. Et donc, j'ai un corps d'adolescente, en fait. J'ai des seins, j'ai des fesses, enfin, je ressemble à une petite bonne femme. Et je pense que les coups, c'est aussi m'en vouloir de me faire remarquer comme ça, quoi. De ressembler
vous,
à ça.
Comme toutes les victimes de viol, vous endossez cette responsabilité-là. Il y a une partie de vous.
Oui.
Qui vous dit, bah oui, c'est de ta faute.
C'est de ma
et
faute.
Et puis, il y a une partie qui se révolte, qui dit non.
Bah, c'est celle qui lit.
Ouais.
Parce que vous lisez d'autres récits. Et c'est pour ça que les livres, c'est important. Et que c'est probablement pas par hasard que je me suis accrochée aussi longtemps pour devenir une autrice. Je sais tellement à quel point ça peut vous sauver la vie. Être tombée sur, je sais pourquoi, Chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Moi, c'est la première fois où j'ai trouvé une petite fille noire à qui il était arrivé la même chose. Mmh. Et dans le réel. Pas dans la fiction. Et Maya Angelou, c'est une vraie personne. Et non seulement il y a ça, mais il y a le fait que elle est devenue plein de choses après. Elle a eu plein de vies après. Elle n'a pas été que ça, que ce moment. Et c'est important de savoir que ça, c'est possible aussi.
Alors vous rêvez d'un ailleurs, vous rêvez de devenir adulte, de grandir, de pouvoir vous échapper. À ce moment-là, c'est impossible, vous êtes seule, vous n'avez nulle part où aller. Et puis les coups redouble jusqu'à vous envoyer aux urgences avec une hémorragie dans le ventre. Et là, vous vous dites, je vais partir. À quel moment est-ce que vous le faites? Et dans quelles conditions?
Je le fais quelques semaines après l'entrée, cet épisode des urgences, parce que je sais que si ça se renouvelle à nouveau, s'il y a à nouveau des coups, il va me tuer. Il est capable de me tuer, en fait. Et il faut dire qu'en fait, les coups, c'est par alternance, quand c'est pas moi qui les prends, ce sont les femmes avec lesquelles il est. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de femmes sous nos toits, en fait.
Okay.
C'est plus
donc
que
c'est
moi.
Ouais.
Voilà. Et en fait, mais je saurais même pas vous expliquer. En fait, un matin, je me lève et je me dis, je me casse. Je m'en vais. Et je pars en cours. J'ai mes affaires, j'ai le réflexe de prendre mes papiers, de prendre le journal intime que je tiens à ce moment-là. Et à la fin de mes cours, je vais simplement à l'association de jeunes téléspectateurs pour laquelle je suis bénévole à ce moment-là. Les pieds dans le paf. Et je leur dis que j'ai nulle part où dormir.
Et Catherine de l'association va vous trouver un toit, là.
Elle va m'accueillir chez elle, sur son canapé, avec sa compagne. Et ensuite, elle va me trouver un toit.
Là, enfin, vous soufflez, vous respirez, vous n'inquiétez plus le bruit de l'ascenseur. Vous dormez, enfin.
D'un vrai sommeil.
Vous prenez les cours par correspondance le jour, la nuit, vous sortez le Rex Club, le Palace, le Folies Pigalle et vous dansez Néné Cherry, Public Enemy, David Guetta et bien sûr Abba. Sentez quand vous dansez à ce moment-là, dans ces années-là, Axel. Oh, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, partout?
C'est une thérapie. C'est une thérapie par la danse, en fait. Tout part, tout s'évacue, tout virevolte. Et je me fais une nouvelle peau, une nouvelle identité à chaque fois, en fait.
2 ans plus tard, vous êtes mariée. Mais 18 mois après, vous partez. Vous écrivez que vous n'étiez pas à votre place. Pourquoi ?
Parce que il le sait maintenant, donc je peux le dire. Je l'épouse pas pour les bonnes raisons. Je l'épouse parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité et qu'il incarne cette sécurité. Je l'épouse parce que tant de brutalité. Tellement de brutalité a précédé que j'ai besoin d'un endroit où je puisse respirer. Mmh. Je l'épouse aussi parce que la première fois que je le vois, je me dis « tu es le père de ma fille ». Tout simplement.
Et vous partez parce que à force de sécurité, vous vous ennuyez un peu, quoi.
Et que j'ai 22 ans quand même. Ouais.
Voilà. En revanche, votre fille, ça, vous la vouliez depuis toujours. Vous avez même décidé au collège que vous l'auriez à 20 ans et qu'elle s'appellerait Margot.
Et ça, toutes mes copines du collège peuvent vous raconter cette histoire en disant « mais la meuf a fait exactement ce qu'elle nous a dit, quoi ». Donc, oui, non, Margot, j'ai eu rendez-vous avec elle, c'est pas pareil.
Et quand, à l'heure de ce rendez-vous, au moment où elle naît, est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé ?
Elle, ouais. Moi, par contre, je me sens friable, extrêmement fragile, parce que c'est le moment où je réalise le plus à quel point ma mère me manque. Et c'est particulier d'avoir 19 ans, de devenir maman, d'être toute seule dans une chambre d'hôpital et d'avoir cette espèce de petite splendeur là entre les mains et savoir que c'est vous qui allez devoir faire le job et vous avez aucune carte. J'avais aucune notice. Voilà, et je suis toute seule au monde, en fait, moi.
Cela dit, votre fille fait le lien entre votre mère et vous, puisque la première fois que vous la revoyez, elle la tient dans ses bras. La boucle pourrait se boucler, mais il reste un nœud à défaire ou un manque à combler. Vous avez 25 ans et votre frère vous donne rendez-vous dans un café, le frère l'autre, hein.
Ouais.
Il a quelque chose d'important à vous dire, c'est quoi ?
Que l'histoire qu'on m'a racontée jusqu'alors sur mes origines n'est pas la bonne. Rien que ça. Voilà, et je découvre à ce moment-là en fait que celui qui j'ai pris pendant des années pour mon père ne l'est pas, c'est juste le mari entre les guillemets hein, c'est le monsieur à qui on a obligé ma mère à s'unir quand elle avait 12 ans et qui est donc le père de ses fils, donc mes demi-frères. Mais moi, j'ai un autre père et j'ai une toute autre histoire.
Qui est ?
Et qui est une magnifique histoire d'amour entre deux êtres qui se sont rencontrés, donc elle, à la fin de la vingtaine, lui, dans sa trentaine, et qui ont décidé que, qu'en dépit du fait qu'ils ne pouvaient pas convoler en juste noces ensemble parce qu'ils étaient cousins directs et que la tradition interdisait cette union-là entre eux, qu'ils allaient quand même donner jour à l'enfant qui était dans le ventre de ma mère depuis 4 mois. Alors, et qui est la superbe créature qui est à votre métro aujourd'hui.
Alors, vous allez mettre un peu de temps à digérer l'information et on comprend. Vous avez une nouvelle date de naissance, une nouvelle histoire. Vous la réappropriez comme vous réinvestissez votre prénom. Lily, c'est votre père qui l'a choisi. Lady Lily, c'est comme ça qu'il vous appelait. Lady, comme dans la chanson de Fela Kuti. If you call a woman, African woman, no go green. She go say, I be lady, yo. Ouais, alors pardon, je lui coupe la chic qui est très très fort et très très vite, a fait la coutume. On pouvait pas exactement passer les 13 minutes et 49 secondes du morceau, hein.
Non, c'est pas possible.
Féministiquement, c'est pas dingue.
Non.
Hein, ce titre de Fela Kuti.
Bah, Fela Kuti, quoi.
Lui-même, il est pas non plus,
c'est pas ouf.
Il n'est pas très déconstruit, on va dire ça comme ça. En revanche, il parle, Axel, à la petite fille, à la jeune femme que vous avez été. Ça change quoi d'avoir ce père-là, de découvrir que vous avez cette histoire-là?
J'ai un père né dans les années 30, un père africain qui a délibérément souhaité que son premier enfant soit une fille et pas un garçon. Il ne voulait pas de garçon, cet homme. Il ne voulait engendrer que des filles. Et il pense à mon prénom quand il a à peine 12 ans sur les bancs de l'école, parce qu'il lit l'histoire de cette Lady Lily dans son cahier d'anglais. Et le personnage lui plaît tellement qu'il se dit qu'à défaut de rencontrer une femme qui sera comme Lady Lily, il fera de sa fille une Lily. Et c'est le prénom qu'il me donne. Le mec m'attend depuis qu'il a l'âge de 12 ans, quoi. Donc pardon, mais... Voilà.
Et puis vous êtes ça, une enfant de l'amour.
Et je suis une enfant de l'amour. Bâtarde, en fait, ça veut dire enfant de l'amour aussi, hein, les gens, au passage.
La vérité, écrivez-vous, c'est que je suis la promesse que mon père s'était faite à lui-même dans une salle de classe. Je suis la fille de l'homme que ma mère s'est choisi. Je porte le prénom qu'il m'a choisi. Je suis une enfant de l'amour et la fille de mon père.
So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal of the soul I've never thought of before. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back.
You so down, so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Or do you fantasize about the things you really wanna feel? I know you fantasize about the life you really wanna build. Your eyes are watching God, baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was wanting me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, couldn't let you regret me. Memorize about the time you spent when you first met me. I put my shit down heavy, couldn't let you forget me. Never let you forget me.
I wish I could take. Guess I love you and it's real. Went in too soon for the kill, but I really wanna feel, and I think I wanna be. I couldn't let you reject me, I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me, I wanted you to let me in. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said, what I said, what I said.
Coming back sur France Inter. Comme tous les vendredis, c'est Djoubaka qui signe notre programmation musicale. Au tuning et à la technique, Fabrice Desmas. À la réalisation, Marie-Annick Rimbaud. Ophélie Vivier, attachée de production avec Manon Rax. Et allez hop, il est temps d'ouvrir notre labo du genre.
Unique en son genre, Julia Foyce.
Qu'est-ce qui fait de nous les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose ici, semaine après semaine. Axel Djadjike, quel serait l'objet qui a fait de vous la femme que vous vous êtes, votre féminin à vous, parfaitement incarné, parfaitement personnel. Et là, je vois que vous mettez la main sur votre bouche et vous vous dites « Oh, mauvaise élève, je l'ai oublié, mon objet. »
Oui, c'est mon vernis à ongles.
Oui, mais vous l'avez au bout des doigts.
Je l'ai au bout des doigts, ben voilà. Mais j'ai oublié le vernis, pardon.
Mais vous l'avez toujours avec vous, tout va bien.
Oui, 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 les ongles rouges, les ongles toujours rouges.
Long, rouge, rouge, ouais. Est-ce qu'on est sur le rouge Big Apple?
On est sur le rouge, putain, ça pète, quoi.
Okay. Très corporel, très France Inter, tout va bien.
Ouais, pardon.
Alors, pour le coup, Qui vous a appris ces gestes-là ?
Ah, oh, je suis une fan des films hollywoodiens des années 40 ouais. et 50. Et en fait, j'ai un amour éperdu pour toutes ces vampes là, ouais. qu'ont, de ces films-là. Pour Rita Hayworth, pour Marilyn Monroe, pour Katharine Hepburn. Enfin, c'est vraiment le féminin qu'elles incarnaient, même si c'était une performance ouais. du féminin. Mm-hmm. C'était quelque chose qui me donnait envie d'être grande et de ressembler, en tout cas de l'incarner de cette façon-là.
De vous créer vos propres modèles, en fait.
Ah, complètement. Que, ouais. Complètement. Je suis tombée dedans, en fait, quand j'étais petite, parce que je regardais le ciné-club. Ouais. Et c'est comme ça que moi, je les ai découverts, ces films-là, et j'ai découvert ces femmes-là, quoi.
Alors, dans ce récit qui est le vôtre, vous évoquez ces modèles-là, vous évoquez le modèle du féminin entre tous et votre mère, que vous finissez ouais. par retrouver. Vous retrouvez en vous un peu de votre mère, et vous dites, finalement, j'aime me dire que j'incarne le rêve le plus fou
ouais.
de ma mère. Donc, tout en étant si différente, vous êtes quelque part une autre. Elle-même, c'est ça ?
Je suis dans la continuité de ce qu'elle aurait voulu voir possible, rendu possible. Et la chose qui est drôle, c'est que quand Margot, donc ma fille, défait ses cheveux et que je vois l'afro qu'elle arbore, c'est fou ce qu'elle lui ressemble.
Ouais.
C'est dingue.
Vous avez des pages très belles sur la transmission, sur la filiation. Vous dites que la transmission, c'est la clé de l'émancipation. Pourquoi ?
Parce que c'est la meilleure façon de ne pas perdre la mémoire. Et de ne pas recommencer à chaque fois en pensant qu'on est les premières à avoir à affronter ce qu'on a affronté. Savoir d'où viennent les femmes qui nous ont précédées nous rend plus fortes.
Donc c'est une filiation au sens large.
Au sens large du terme. C'est pas seulement vos mères, parce qu'on n'a pas toutes des mères bienveillantes non plus. Hein. Voilà,
je et puis on n'a pas toutes des filles.
Et puis on n'a pas toutes des filles.
Hein. Des
voilà, on est de toute façon porteurs des deux principes, et le féminin et le masculin, donc on a intérêt à harmoniser tout ça déjà en nous, et puis on arrivera peut-être à le faire dans la société toute entière, mais bon, pardon, c'est un point de vue personnel. pardon. Et ça, c'est pour moi, ça commence vraiment, il faut commencer au plus près de soi, en fait, à l'échelle micro, parce que pour moi, c'est de l'intérieur vers l'extérieur qu'on change les choses. Pas dans le sens inverse. Dans le sens inverse, c'est déjà trop tard. Mais si déjà, à l'échelle de nos propres familles, à l'échelle de nos histoires respectives, on est capable de dire ce qui a été pour nos mères, leurs sœurs et nos grands-mères, l'histoire des femmes, elle existe. Je déteste cette team du MLF qui dit qu'on n'aurait pas d'histoire. On a une histoire. Les femmes de notre famille sont notre histoire. Et elle est aussi importante que la soi-disant grande histoire. C'est celle-là, la grande histoire.
Alors, un grand merci, Axel Djadjiké, d'être venu nous raconter la vôtre. Ce soir, Unique en son genre, c'est terminé. Journal intime d'une féministe noire, c'est aux éditions du Diable Vauvert. Je rappelle également les noms de vos deux podcasts, excellents podcasts, Me, My Sex and I et La fille sur le canapé. On va se quitter avec vos mots à vous, si vous me permettez, Axel. Nous sommes des passeuses dans un récit bien plus vaste où le vécu est prépondérant depuis la nuit des temps, héritière d'une appartenance remontant à autant de générations qu'il y a de générations. Être femme, c'est appartenir à la grande famille des mères, des filles et des sœurs, celle du lien, du vivre, de l'intime, de la chair, des sens, du sacré. La honte d'être femme se transmet. L'indifférence d'être femme se transmet et la joie d'être femme se transmet aussi. Il incombe à chacune d'entre nous de savoir ce qu'elle choisit de transmettre.